Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il en a promis des choses, Donald Trump. Un mur le long de la frontière mexicaine, payé par les Mexicains, la destruction de l'État islamique, des baisses d'impôts, une croissance à 4%, la création de plusieurs millions d'emplois. Et surtout, le retour de l'Amérique, de la grande Amérique. Alors, on peut être surpris que les électeurs américains se soient laissés berner par de telles promesses difficilement tenables. Mais après tout, n'est-ce pas devenu le lot des démocraties représentatives que de proposer à chaque élection ces courses à l'échalote? C'est à qui aura dans son programme le plus gros chiffre, celui de la baisse du chômage, de la diminution du nombre de fonctionnaires, de l'augmentation du nombre de policiers. Plus c'est gros, mieux ça passe. Alors, faut-il en déduire pour autant que les électeurs se laissent trop facilement embobiner, qu'ils manquent de lucidité? Pour quelle raison? Après tout, les candidats les plus raisonnables ont-ils du mal à se faire entendre? Peut-on gagner et gouverner sans démagogie? C'est la question que nous posons ce soir aux membres de notre club. Trois ce soir. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous enseignez à Sciences Po Paris. Un autre enseignant, François-Xavier Bellamy, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, vous êtes professeur en classe préparatoire, adjoint au maire de Versailles. Et puis Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, le tour du monde des idées du lundi au vendredi et non pas tous les jours de la semaine. Parce que quand je dis tous les jours, je reçois des mails en me disant non, c'est pas tous les jours, c'est du lundi au vendredi.
Non, je prends mon week-end.
Et c'est à 11h50 sur France Culture.
Je dis non à la démagogie qui dresse les Français les uns contre les autres et par exemple les élites contre le peuple. Cela ne mène à rien, sinon à des blocages qui seront peut-être plus dangereux encore.
Chaque élection présidentielle et législative donne en réalité la prime aux démagogues les plus acharnés.
Quand vous proposez par exemple de supprimer 300 000 postes de fonctionnaires, c'est facile, on est dans la démagogie.
Les primaires, aussi bien à gauche qu'à droite, sont nécessaires, mais en même temps, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce que toute primaire est une machine, en tout cas pour le premier tour, toute primaire est une machine à surenchère, donc à démagogie.
Alors, où est passée l'autorité de l'État? C'est aujourd'hui le procès instruit par la droite à la gauche.
Aujourd'hui, l'exécutif n'a pas d'autorité, n'a pas de majorité. Et comment pouvoir gouverner, y compris aujourd'hui, des questions comme ceux de la sécurité, quand on n'a pas d'autorité?
Je vais être le président qui ramène l'autorité de l'État dans ce pays. Parce que sans autorité, il n'y a rien.
Voilà, petit montage sonore signé comme chaque semaine par Jean-Christophe Francis. Si on a mis les deux termes démagogie et autorité, c'est parce qu'il y a sans doute un lien entre ces deux termes. On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission, mais lien possible entre une demande d'autorité justement aujourd'hui et le succès de certains démagogues. Mais puisque j'ai des profs dans ce studio, je voudrais qu'on commence par le commencement, à savoir la définition du mot que nous examinons ce soir en priorité, à savoir la démagogie. Dans le dictionnaire Robert, on peut lire ceci. Démagogie, politique par laquelle on flatte, excite, exploite les passions des masses. Est-ce que, par rapport à cette définition, Anastasia Colosimo, vous diriez que la démagogie se porte plutôt bien aujourd'hui?
Oui, par rapport à cette définition, sans doute, elle se porte très bien. Je pense que, par ailleurs, elle s'est toujours très bien portée. Je pense que ce qui est à interroger, c'est que dans un système d'élection, comme la démocratie, il y a forcément de la démagogie. C'est plutôt ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, les réactions, j'ai trouvé les plus formidables au lendemain de l'élection de Trump, mais c'était aussi les réactions après le Brexit, c'était de dire, tout d'un coup, on avait de grands démocrates qui regardaient un peu ahuris les téléspectateurs à la télé, c'était assez frappant, et qui disaient, mais en fait, peut-être qu'il faut remettre en cause le suffrage universel. Donc je pense que oui, aujourd'hui, c'est d'actualité.
François-Xavier Bellamy.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu des démagogues. D'ailleurs, le terme de démagogie est aussi ancien que le terme de démocratie. Il y a toujours eu des démagogues, pas seulement en démocratie d'ailleurs. La démagogie n'est pas spécifiquement liée au système électoral. En revanche, ce qui mérite d'être questionné aujourd'hui, c'est ce qui permet l'efficacité de la démagogie. Parce que ce que votre définition ne dit pas, c'est que ça n'est pas seulement une politique qui exploite les passions populaires, mais c'est une politique qui capitalise sur les passions populaires. La démagogie est évidemment un intérêt politique, qu'on soit d'ailleurs en démocratie, encore une fois, ou dans un système bien plus autoritaire. Dans tous les cas, le démagogue est celui qui utilise le caractère non rationnel du peuple pour pouvoir mener à bien ses propres projets politiques et pour pouvoir en particulier gagner ou conserver le pouvoir.
Vous parliez de système électoral. Est-ce que vous diriez qu'il y a des systèmes électoraux qui favorisent la démagogie ou d'autres qui au contraire la limite ou en tout cas la contraignent davantage?
Et justement, c'est ça qui mérite d'être interrogé. Il y a évidemment, il me semble, des systèmes institutionnels qui favorisent la démagogie. On pourrait dire à certains égards d'ailleurs que le système de la Ve République est un système qui est plutôt favorable à la démagogie parce que l'élection présidentielle, par exemple, permet de donner libre cours à cette exploitation des passions populaires par l'individu qui incarne ou qui prétend incarner l'État et le peuple. Ce qui me paraît en revanche décisif, c'est de bien comprendre que l'efficacité de la démagogie n'est pas d'abord, comme la qualité de la démocratie, n'est pas d'abord liée à des structures institutionnelles, mais d'abord à un climat ou à un certain nombre de prérequis qui, s'ils sont présents, constituent autant de contrepoids à la possibilité même de la démagogie, et s'ils sont absents, rendent possible l'efficacité de la démagogie. Par exemple, la qualité de l'éducation, qui donne une faculté de discernement, de raisonnement aux citoyens qui font une démocratie. Par exemple aussi, la liberté des médias et la capacité des médias de créer cette distance et de jouer vraiment ce rôle de médiateur. Dans toute efficacité démagogique, il y a une forme d'immédiateté. Et c'est cette immédiateté que certains médias, que certains moyens peuvent permettre de prévenir ou de guérir quand la démagogie se fait menaçante.
Alors ça, c'est aussi considéré, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, que ceux qui cèdent aux sirènes de la démagogie manquent de discernement, mais peut-être qu'on y cède de manière beaucoup plus consciente qu'on l'imagine. Mais je voudrais poursuivre et terminer ce premier tour de table avec Brice Couturier qui a fait également ses devoirs et qui a réfléchi à ce terme de démagogie.
J'ai réfléchi en regardant du côté des Grecs, puisqu'après tout, le mot vient de chez eux. Le démagogue type, c'est Cléon. C'est celui qui succède à Périclès à la tête d'Athènes et dont tous les commentateurs, ensuite Aristophane qui est son contemporain, mais aussi jusqu'à Plutarque, se moquent. Pourquoi ? Parce que le démagogue, tel que Plutarque ou Aristophane le conduit, le montre, c'est quelqu'un qui conduit le peuple, mais qui n'est pas un homme instruit ni de bonnes mœurs, et cela demande un démagogue, c'est un ignorant et un coquin, selon Aristophane. Thucydide dit de Cléon que c'était le plus violent des citoyens, mais qu'il était fort écouté du peuple. Donc c'est quelqu'un qui est très éloigné des milieux aristocratique, qui est un arriviste. Son père était un riche tanneur d'Athènes, Cléon, mais il se vantait de ne pas appartenir aux familles aristocratiques. Donc c'est quelqu'un qui exploite les passions populaires parce qu'il est violent et débraillé, dit Thucydide. Il est débraillé, il est violent et il flatte les colères populaires. Entre autres, il entraîne Athènes dans des aventures extrêmement dangereuses, comme l'extermination de toute la population du Nil qui s'était révoltée contre Athènes, l'île de Mytilène en 428 avant Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui flatte les passions populaires dans le but d'acquérir du pouvoir et qui entraîne la cité dans des aventures périlleuses. Voilà, c'est ça un démagogue.
Et c'est un portrait qui semble coller assez bien à un Donald Trump aujourd'hui. Vous avez mis une idée là-dessus quand même.
Moi j'ai des petites idées sur Donald Trump qu'on n'a pas beaucoup entendues jusqu'à présent dans les micros bien informés. Trump est un altermondialiste doublé d'un keynésien. Par exemple, ça, on ne l'entend pas beaucoup. C'est un altermondialiste, il est tout à fait hostile au libre-échange, il veut renégocier les traités comme l'ALENA que les États-Unis ont déjà signé avec le Mexique et le Canada. Il veut arrêter les négociations du TTIP. Il est favorable à des grands travaux qui coûteraient 550 milliards de dollars dans les infrastructures américaines. Voilà des grands projets qui plairaient beaucoup, qui plaisaient beaucoup, je crois avoir compris, à nos amis keynésiens et dont on n'entend pas beaucoup parler. Là, on ne se moque pas de Trump sur ce plan-là, c'est bizarre, pourquoi ?
Le fait, cela dit, de promouvoir comme ça ces grands projets ne signifie pas qu'on est totalement étranger à la démagogie. Je voudrais, pour poursuivre toujours sur ce terme, Anastasia Colosimo, nous si on l'a choisi finalement ce soir, c'est aussi parti d'un constat, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on emploie assez peu aujourd'hui, en tout cas quand on fait simplement une recherche très simple, hein, vous allez sur Google Actu, vous voyez très vite que quand vous tapez populisme, il y a énormément d'occurrences qui apparaissent. Quand vous tapez démagogie, il y en a beaucoup moins. On a presque l'impression que le populisme aujourd'hui a totalement englouti la question de la démagogie. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ?
Je dirais déjà que ce terme de démagogie, il est assez compliqué parce qu'on voit que quand on dit Donald Trump est un démagogue, on est déjà dans une appréciation péjorative de Donald Trump. Les électeurs de Donald Trump ne pensent pas du tout que Donald Trump est démagogue. Ils pensent qu'il va aller jusqu'au bout de son programme. Et d'ailleurs, on voit très bien que, par exemple, qui est la personne qu'on accusait le plus de démagogie, c'était Nigel Farage. Et finalement, le Brexit a eu lieu. Et donc, du coup, a posteriori, on ne peut plus vraiment dire que c'est un démagogue. C'est un homme qui allait au bout de son programme.
Nigel Farage, pour rappeler, c'était c'est le leader de UKIP qui plaidait pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Exactement. Et je me souviens que pendant des années, on nous disait, mais regardez quel horrible démagogue. Et finalement, ça a eu lieu. Donc, il y a tout d'un coup, a posteriori, l'impression, que ce n'était pas un démagogue, c'était un politicien peut-être très ambitieux.
Alors, ce qui fait qu'un démagogue réussisse, à votre avis, pour qu'il cesse de
l'être ? Non, pas du tout. Mais il y a cette idée dans la démagogie de dire, les propositions sont intenables. Mais en fait, je pense que exactement ce qui aujourd'hui se vérifie, et ce qui d'ailleurs est peut-être terrifiant, c'est que ces propositions, en fait, elles sont tenables parce que toutes les digues qu'on pensait qui ne pouvaient pas être détruite et on pensait qu'il y a un tas de choses qui n'étaient pas possibles, le Royaume-Uni ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, Donald Trump ne pourrait jamais être élu. En fait, tout ça devient possible. Et par rapport à cette différenciation qu'on pourrait faire entre démagogie et populisme, démagogie, du coup, on est dans un terme assez compliqué, je trouve. C'est pour eux. En revanche, populisme, je pense que c'est aussi dans notre imaginaire, dans l'imaginaire de nos générations, le renvoi qu'il y a en permanence et les comparaisons qui sont faites en permanence avec le XXe siècle. Et donc ce terme de populisme, c'est aussi de créer tous ces ponts, parfois réels, parfois fantasmés, parfois excessifs, avec l'histoire du XXe siècle qui reste encore une histoire extrêmement douloureuse.
On peut peut-être dire, pour différencier les deux termes, François-Xavier Bellamy, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette proposition, que tous les populistes, a priori, sont démagogues, mais que tous les démagogues ne sont pas forcément populistes.
Je crois que la distinction n'est pas forcément évidente à poser parce qu'elle nous renvoie en fait à la fois à des horizons politiques qui sont très éloignés. Vous le rappeliez, la démagogie d'ailleurs en Grèce a fini par être revendiquée quasiment dans la vie politique des cités grecques comme un créneau politique tout à fait objectif et assumé.
C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Autant on peut revendiquer une forme de populisme, c'est rare mais ça arrive. Autant se revendiquer démagogue, ça n'existe pas. Enfin,
je ne crois pas non plus qu'il y ait beaucoup de gens qui revendiquent d'avoir un propos politique populiste. Je pense qu'on peut revendiquer d'avoir un propos politique populaire.
Il y a eu des partis populistes à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il y a eu des populismes agrariens en Bulgarie. Il y a eu un parti populiste américain à la fin du 19e siècle.
Non, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas tellement revendiqué en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle je disais que je pense que la distinction n'est pas évidente à faire parce qu'elle est très liée à des horizons politiques assez conjoncturels.
Il me semble surtout que le populisme est lié à l'ère des masses, alors que la démagogie, comme vous le disiez, a existé en Grèce antique, bien avant l'ère des masses. Donc il me semble que le populisme, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est lié à la modernité. D'ailleurs, ça apparaît effectivement à la fin du 19e. Il n'y a pas de populisme avant.
François-Xavier Bellamy, pour vous laisser poursuivre.
Et ce qui est certain, en tous les cas, c'est que ces deux termes simultanément méritent d'être réinterrogés parce que ordinairement ils servent d'invective. Ils ne servent pas de catégorisation. En fait, ils servent à qualifier un propos politique que l'on juge méprisable, comme le disait Anastasia à l'instant, que l'on juge irréaliste. La question qui mérite d'être posée, encore une fois, c'est de savoir comment objectiver le point où commence la démagogie.
Alors justement, vous évoquez les promesses, enfin en tout cas les programmes, Anastasia Colosimo. Est-ce que être démagogue, c'est quelque chose qui se prouve une fois qu'on est au pouvoir, c'est-à-dire si on n'est pas capable de tenir les promesses qui nous ont amenés au pouvoir, là on peut dire voilà, vous avez été démagogue, ou bien est-ce que c'est tenir des promesses en sachant qu'on ne sera pas capable de les tenir ?
Prenons un exemple vraiment éclairant. Enfin, plutôt essayons de réfléchir ensemble à un exemple qu'on connaît bien. François Hollande, quand il dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Alors, à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui disent « Mais quelle démagogie !» Bon, ensuite, il arrive au pouvoir, on se rend compte qu'effectivement, son ennemi, c'est certainement pas la finance. Donc, on répète... c'est pour ça, je veux dire, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des propos qui sont par essence démagogues Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est exactement ce que nous prouve un peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que c'est ce que disait François-Xavier Bellamy. C'est-à-dire que quand on dit... C'est péjoratif. Quand on dit d'un propos que c'est un propos démagogiques, c'est péjoratif. Et d'ailleurs, le populisme, c'est devenu aujourd'hui un terme péjoratif. Or, justement, un personnage comme Donald Trump, il prend le contre-pied de ça en disant « Mais quel est le problème ? Moi, je parle au peuple. Je dis ce que le peuple a envie d'entendre, mais parce que je suis du côté du peuple, je suis avec le peuple. » Et donc, je pense que, justement, continuer à accuser ça de démagogie ou de populisme, c'est peut-être aussi passer à côté du problème. C'est-à-dire que ces gens-là existent, ils sont réels, ils ont des désirs, ils ont des passions. Il y a des politiciens qui sont là et qui correspondent à ces désirs et ces passions. Et je trouve que c'est un peu facile de balayer ça d'un revers de main en disant « c'est terrible, c'est du populisme ». Ou « c'est terrible, c'est de la démagogie ».
Maurice Couturier ? Oui, moi je ne suis pas d'accord avec la présentation que vous faisiez. Un démagogue, ce n'est pas nécessairement un menteur qui fait des promesses intenables. C'est quelqu'un qui vit, qui conquiert le pouvoir, mais qui aussi le conserve en continuant à flatter les plus basses passions populaires. La colère, l'envie, la haine, la xénophobie, la haine d'autrui. C'est ces mauvaises passions que le démagogue caresse dans le sens du poil. Et ça lui permet de rester au pouvoir. Il ne perd pas nécessairement le pouvoir. Il peut conduire son peuple à des catastrophes, surtout vers la guerre, parce que c'est ce qui est encore le plus... Par ailleurs, le populisme péjoratif, il n'a pas toujours été, encore une fois, populisme en américain, c'est pas si péjoratif que ça. Et dans les langues slaves, que vous connaissez bien, Anastasia, Ludové, c'est pas du tout populaire, c'est pas du tout péjoratif, ça veut dire populaire et populiste à la fois. Et de nombreux partis agrariens en particulier, au début de ce siècle, dans l'ensemble de l'Europe de l'Est, portaient ce nom. C'était c'était les partis qui défendaient en réalité les intérêts des paysans, au sens où les paysans, c'était le vrai peuple.
Oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans nos médias, c'est vraiment utilisé de manière très péjorative. Enfin, quand on titre Donald Trump le populiste, c'est pour dire Donald Trump le terrible. C'est quasiment un synonyme.
Ce serait quoi le contraire de la démagogie aujourd'hui, puisque un terme, quand il est compliqué à définir, finalement, c'est toujours peut-être intéressant de réfléchir à ce que pourrait être le contraire. Il y a quelques années, il me semble que là aussi, c'est beaucoup plus discret, en tout cas, dans le vocabulaire politique, il y avait le fameux « parler vrai ». Le « parler vrai », c'était la preuve qu'on était raisonnable, qu'on disait les choses telles qu'elles existent, telles qu'elles se feront, et pas telles qu'on les rêve ou telles qu'on les imagine. Le « parler vrai », aujourd'hui, on a l'impression que là aussi, c'est quelque chose qui est plus tellement assumé dans le personnel politique. François-Xavier Bellamy.
Ce qui est certain, c'est qu'on est devant une difficulté majeure parce que la démocratie est forcément sur une ligne de crête assez étroite. La démocratie ne peut pas se couper du peuple, ou alors elle n'est plus démocratie. C'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est même en quelque sorte ce qui facilite l'effet médiatique de l'élection d'un Donald Trump. C'est que le monde médiatique est tellement unilatéral et uniforme dans le traitement qu'il accorde à cet événement, comme à la question du Brexit, par exemple, que du coup, tous ceux qui, à l'intérieur d'une société, peuvent être sensibles aux arguments développés par les partisans du Brexit, par exemple, nécessairement se voient immédiatement taxés de démagogues et se trouvent exclus du champ démocratique. Le contraire de la démagogie, c'est l'exercice de la raison. Et la démocratie, me semble-t-il, je ne crois pas qu'il y ait de raison de classer les passions comme le faisaient les empiristes britanniques en passion triste ou passion heureuse. Il n'y a pas de passion mauvaise. La peur n'est pas en elle-même une passion mauvaise.
Colère et l'envie.
Non, la colère, ce n'est pas une passion mauvaise.
La colère, enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas de... Il y a des passions, c'est une certitude. C'est très difficile de les juger en bonnes ou mauvaises. Il y a des passions et nous sommes faits aussi de nos passions. Mais la démocratie commence quand nous acceptons de mettre à l'écart nos passions pour promouvoir l'exercice de la raison. La démocratie, la politique même tout simplement, commence quand, par exemple, pour reparler de la colère, nous décidons de remplacer la vengeance par la justice. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas en colère. Ça veut dire simplement que nous acceptons de ne pas donner la primauté à nos passions dans la réponse que nous accordons collectivement aux difficultés que nous rencontrons et que par conséquent nous choisissons de ne pas vivre ensemble de ces passions qui pourtant existent. Et il serait tout aussi absurde de nier ces passions, y compris d'ailleurs de les condamner moralement, que de vouloir en faire un fonds de commerce politique. La démocratie, la politique même commence avec l'exercice de la raison. Et la démagogie, en ce sens, met en danger la politique quand elle exclut la raison pour en faire un lieu de pure expression des passions.
Mais est-ce que la raison ne met pas aussi parfois en danger la politique en étant justement trop raisonnable et en mettant les passions de côté, c'est-à-dire en discréditant finalement toute forme de passion? On peut aussi voir dans le succès de certains démagogues, enfin je ne sais pas s'il faut les appeler démagogues parce que c'est un peu essentialisé des personnels politiques qui font de la démagogie sans être forcément toujours démagogues, mais est-ce que ça n'est pas leur succès n'est pas aussi lié à une forme d'envie, d'un retour de politique, mais un peu plus passionnel, justement.
Ce qui me semble, c'est que nous devrions avoir la passion de la politique, c'est-à-dire nous devrions vivre ensemble la passion de la raison. C'est vrai, être enthousiasmé de ce qu'est l'exercice démocratique et apprendre à nous enthousiasmer de nouveau. En revanche, il faut absolument retrouver le sens de la raison, le sens de la raison commune. Et c'est quand même ce sens qui nous manque profondément. Et pourquoi nous manque-t-il ? Non pas parce que la politique a mis à l'écart la raison, mais parce que le champ politique et le champ médiatique, qui encore une fois joue un rôle très important dans ce dont nous parlons aujourd'hui, a mis à l'écart un certain nombre de raisons, de bonnes raisons qui pouvaient se présenter, d'avoir des opinions différentes sur certains sujets. Il y avait de bonnes raisons de penser que le Brexit était une bonne solution pour les Anglais. Comment se fait-il, par exemple, qu'en France, la totalité de la presse française était favorable au maintien de l'Angleterre dans l'Union européenne ? Il y a de bonnes raisons de penser que les flux migratoires qui se présentent aujourd'hui dans notre société sont une difficulté importante à gérer pour l'avenir de nos pays. Il y a de bonnes raisons de le penser. Et à force d'exclure ces raisons contradictoires qui s'expriment sur le plan de la politique, à force de n'entendre qu'une certaine forme de raison, qu'un certain type de raison, à force de ne se passionner que pour une raison qui nous plaît, nous excluons ce dialogue rationnel, y compris contradictoire, et par conséquent, nous ne faisons qu'exacerber ces passions que nous avons bannies en dehors du monde politique.
Alors je retiens cette formule, redonner la passion de la raison sans l'habileté du philosophe, là, hein. Brice Couturier.
Oui, c'est sûr que quand on a affaire à un homme politique rationnel, disons Mendès France, Rocard, Raymond Barre, et qu'en face on a un populiste qui flatte les passions populaires les plus basses, le premier a peu de chance parce qu'il se contente de respecter les faits et de tenir le discours de la raison. Mais moi je voudrais faire un parallèle sur l'actualité entre Donald Trump et Hillary Clinton qui va vous surprendre. Ce qui me paraît intéressant dans l'attitude de Donald Trump, c'est qu'il s'est adressé au peuple américain dans son unité, alors qu'il a Hillary Clinton s'adressait en spécialiste du marketing politique avec un ciblage ethnique et genré ou sexuel extrêmement préoccupant dans la vie politique actuelle. Elle a pratiqué ce qu'on appelle la politique des identités. Elle a flatté les femmes puisqu'elle en faisait partie. Elle s'est adressée de manière spécifique aux Noirs puisqu'elle avait Obama derrière elle, aux Latinos. Finalement, ça a raté. Et celui qui a réussi, c'est celui qui s'adressait au peuple américain et non pas qui ciblait un par un les minorités ethnique ou sexuelle dont elle pensait qu'elle lui était acquise.
Mais ça s'intéressait au peuple américain en excluant une partie de ce peuple américain.
Mais non,
quand même.
Pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites. Quand écoutez ses discours, non, il n'a pas du tout dit ça. Il s'est adressé au peuple américain dans son entièreté, dans sa totalité.
Quand on tient des propos sexistes et quand on tient des propos racistes, c'est quand même exclure une partie
de... C'est Hillary Clinton qui s'est adressé à des clientèles politiques bien particulières, une par une, et qui a pratiqué la politique des identités. Et ça aussi, c'est très mal vu par la presse française, mais assez bien par la presse américaine.
Anastasia Colosimo.
Non, je pense qu'il y a une question sur les médias qui est énorme. La vraie question, c'est que, bon, à la limite, que tous les médias soient taqués à la même idée. Bon, c'est terrible, mais ce qui était très impressionnant, là encore, c'est qu'on a l'impression que la connivence politico-médiatique est telle que même les sondages se trompent. Et ça, je trouve que, alors qu'on est normalement dans l'ordre du scientifique, enfin à peu près dans les sondages, ce qui est extraordinaire, c'est que même là, aucun journal n'était capable de nous dire « Donald Trump va gagner ». Aucun journal n'a titré quelques semaines avant « Donald Trump va gagner », alors qu'on a entendu « Hillary Clinton va gagner ».
200 journaux américains, sur 200 journaux américains, vous en avez 6 qui ont soutenu Donald Trump, et c'était des journaux très peu influents.
Mais c'est une chose de soutenir un candidat, et c'est une autre chose de dire « mon candidat va gagner ».
Wall Street Journal ont soutenu Clinton, y compris USA Today qui n'avait jamais soutenu un candidat auparavant. Donc ça montre bien que nous vivons tous dans une bulle. D'un seul coup, cette bulle éclate et ça nous fait beaucoup de mal.
Mais je pense, surtout pour revenir sur ce que disait François-Xavier Bellamy, c'est très juste. Je pense qu'il y a une raison qui a été complètement cachée, à laquelle on n'a pas donné la possibilité de s'exprimer, et que du coup, cette raison aussi est devenue déraisonnable, dans le manque d'écoute aussi qu'il y a eu. Et y a une impression, en tout cas totale, d'une revanche du peuple et de candidats justement qui sont du côté de ce peuple, qui a envie d'une revanche et qui a envie enfin d'en finir avec le fait de ne pas être entendu, de ne pas être écouté.
Est-ce que vous considérez, puisque je reste en tout cas sur notre terme de démagogie, que quand on vote pour un candidat démagogue, on le fait en pensant vraiment que ce qu'il nous promet va se réaliser, ou bien est-ce qu'il y a quand même la conscience que ça n'arrivera pas, mais que on le fait quand même parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est une façon de contester le système, parce que c'est une façon peut-être de demander davantage de politique, de demander davantage d'autorité, de demander davantage d'intervention, c'est-à-dire plutôt que de laisser, comme on peut le voir aujourd'hui, par exemple, les marchés décider pour les États, de redemander de l'action politique.
Je dirais qu'il y a forcément du vote d'adhésion. Je pense que dans le cas de Donald Trump, il y a plein de personnes qui, ça, il faut aussi se rendre compte de la sociologie américaine. Je pense que les États-Unis, c'est rempli d'Américains qui pensent que le discours de Donald Trump, dans l'entièreté du discours de Donald Trump, est un discours formidable et souhaitable pour les États-Unis. Donc il y a le vote d'adhésion et ensuite il y a aussi un vote anti-Clinton et même anti-Obama qui est très fort. Dans le vote pour Donald Trump, qui est un vote en fait anti-système, anti-establishment, on l'a beaucoup entendu, mais je pense que c'est très réel, c'est-à-dire aussi de se dire finalement rien ne marche, est-ce qu'on n'essaierait pas le plus fou ? Et alors là, avec Donald Trump, c'est vraiment l'accomplissement de la société du spectacle, c'est-à-dire vraiment est-ce qu'on va pas essayer le plus fou ? Et là, on essaye le plus fou. Donc par ailleurs, là, on est un peu tous suspendus parce qu'on a envie de voir ce que ça va donner.
François-Xavier Bellamy.
Je voudrais juste, pour vous répondre, revenir sur deux choses. La première, c'est que, pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant du caractère très, très partial ou partiel du biais médiatique, en fait, il empêche cet exercice de la raison commune parce que du coup, il dessert les buts qu'il prétend servir. C'est là le grand échec de ce journalisme très engagé auquel on a eu affaire. J'ai découvert, je dois confesser, je suis pas du tout un spécialiste de la politique américaine, j'ai découvert l'existence de Donald Trump le jour où le Huffington Post aux États-Unis a décidé de parler de sa campagne dans ses pages divertissement plutôt que dans ses pages politiques. Et ils avaient fait un article pour expliquer pourquoi ils allaient parler dans les pages divertissement. C'était évidemment une sorte de pied de nez qui lui était envoyé. Quelques années, quelques mois plus tard, le même Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Et par conséquent, pendant toute cette campagne, à chaque fois que le Huffington Post ou n'importe quel autre journal engagé derrière Hillary Clinton ou contre Donald Trump a voulu se livrer à un exercice de critique rationnelle de son programme, cette critique rationnelle était inaudible de la part de tous ceux que Donald Trump séduisait parce qu'elle était immédiatement perçue comme le fait d'un engagement militant qui ne pouvait pas être recevable en tant que tel. Par conséquent, le caractère monocolore du monde médiatique crée aussi évidemment un boulevard pour les candidats qui se présentent comme des candidats anti-système parce que de fait, aucune analyse rationnelle ne peut être faite de leur programme. Donc beaucoup d'Américains sont certainement convaincus que Donald Trump va construire son grand et beau mur entre les États-Unis et le Mexique, j'en suis certain.
Bah, cela dit, sommes-nous certains d'avoir une analyse rationnelle aujourd'hui de la victoire de Donald Trump ? Je rappelle quand même que, en termes de voix, il est minoritaire par rapport à Hillary Clinton. Mais ce que je veux dire, c'est que les analyses a posteriori de la victoire d'un candidat sont toujours différentes.
Moi, je trouve que rien n'a changé. C'était extraordinaire. D'abord, on nous a dit que Donald Trump ne va jamais être élu. Son programme est infaisable. Alors, ensuite, il a été élu. Alors, on nous a expliqué. Oui, enfin,
cette
il
critique
a été
médiatique,
élu,
je l'ai beaucoup entendue depuis
vraiment.
2-3 jours, moi,
oui,
quand même.
Et puis, ensuite, on dit il a été élu, oui, mais pas en nombre de voix vraiment. Donc, d'un coup, on nous a dit qu'il n'a pas vraiment été élu. Et qu'ensuite, il ne va pas vraiment faire son programme. On a l'impression qu'à aucun moment, les journalistes ne se décident de prendre au sérieux le fait que non seulement il a été élu, à la majorité en plus largement, selon le système américain, d'accord, mais il a été largement élu, il n'y a pas eu de débat, et en plus qu'il va peut-être effectivement appliquer son programme et que donc il serait temps peut-être de se poser la question de pourquoi est-ce que c'est un programme qui a rencontré une adhésion telle qu'il a pu être élu.
Donc il faut prendre au sérieux les candidats quand ils gagnent, quand ils disent qu'ils vont appliquer leur programme, et ça marche aussi pour la France. Est-ce que vous auriez la même attitude, Nastassia Colosimo, par rapport à la campagne présidentielle en cours ?
Mais je pense que, évidemment, et je pense que d'ailleurs tout le problème, c'est qu'on ne prend pas assez au sérieux. C'est-à-dire que je pense que quand on agite Marine Le Pen comme un épouvantail, et quand on dit, mais de toute façon, elle veut faire ça, mais elle ne le fera pas, etc., mais on voit très bien que ça ne marche plus, et que surtout si elle veut faire quelque chose. Enfin, il y a un moment aussi où si elle veut faire quelque chose, et si elle a derrière elle une majorité, elle le fera. Le Brexit, ça a marché. Ils vont vraiment sortir de l'Europe. Donc il y a des choses qui sont vraiment possibles. Et tant qu'on ne rentre pas aussi dans ce principe un peu de réalité, tant qu'aussi on n'arrive pas à entendre qu'il y a des demandes qui, même si elles peuvent nous paraître délirantes ou pas forcément fondées, existent et qu'elles correspondent à des désirs, des envies, des inquiétudes, des peurs, des colères, si on ne prend pas tout ça au sérieux, on s'expose exactement aux mêmes erreurs.
Mais si on prend les candidats au sérieux et les promesses au sérieux, on ne peut plus parler de démagogie, Brice Couturier.
Non, mais si on vit dans une bulle politico-médiatique et qu'on continue à penser que les autres sont des méchants et qu'ils n'auraient pas dû gagner, forcément, je suis très hostile à Trump. Mais enfin, c'est l'idée...
C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Non, d'accord, que vous l'avez noté.
Vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, une réalité pour laquelle nous avions mépris et dénégation nous éclate à la figure. Profitons-en pour essayer de remettre nos compteurs à l'heure et d'essayer de voir ce qui se passe dans les sociétés profondes, plutôt que de continuer à plaquer sur cette société des schémas qui, manifestement, ne s'applique pas. Moi, ce qui me paraît surtout évident dans cette affaire américaine et qui va forcément avoir des conséquences chez nous parce que les Américains sont toujours en avance, comme Tocqueville l'avait bien noté, c'est que les partis politiques sont ressentis par l'électorat comme des simples machines électorales avec leurs armées de professionnels du marketing, avec leurs armées de professionnels des sondages et de la communication, avec leurs publicitaires et leurs chefs d'orchestre organisateurs de grands shows, etc. Et que les... Alors, c'était flagrant aux États-Unis parce que vous aviez l'armée de démocrates autour de Clinton, et puis vous aviez un homme seul en face, parce que le Parti républicain n'a pas voulu jouer ce personnage bouffon et s'est retiré de la campagne. Et c'est celui-là qui gagne. Donc on dirait que les électeurs avaient perdu l'espoir, vous le disiez à l'instant, Hervé Gardette, que la politique puisse changer quelque chose pour eux. Ils viennent de manifester, là, aux États-Unis, qu'ils continuent à en attendre quelque chose. Moi, ma grande peur, je vous dirais franchement, c'est que les promesses de, comme vous le laissiez entendre, les promesses de Donald Trump ne puissent pas être tenues et que la grande colère envers la classe politique qui s'est manifestée à cette occasion redouble d'intensité sur la base de cette déception qui est à peu près inévitable. Mais qu'est-ce qui peut venir après? C'est ça qui est le plus inquiétant.
Après ça, Xavier Bellamy.
Ce qui est certain, encore une fois, c'est que je crois que c'est pas parce qu'une politique réussit qu'elle n'est pas démagogique. Je veux dire par là, c'est pas parce qu'un politique réussit à se faire élire qu'il n'est pas un démagogue. À titre personnel, je crois très profondément que Donald Trump est un démagogue et je ne me réjouis pas du tout de sa victoire. Bien au contraire, je pense qu'elle est le signe d'une mutation très profonde du paysage politique. On a beaucoup parlé des médias et je pense qu'encore une fois, il y a quelque chose de très profond à interroger là-dedans parce que si Donald Trump a été élu, c'est aussi en grande partie parce que les médias n'ont pas su faire la marque d'un véritable pluralisme qui permettent encore une fois de faire vivre dans le débat médiatique ce débat rationnel qui constitue la démocratie. Mais après, il y a d'autres mutations qui marquent les États-Unis et qui vont nous marquer aussi. On a parlé de la société du spectacle, mais évidemment, elle est une porte ouverte à la démagogie d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, en France, on a de quoi s'inquiéter très profondément, je crois, pour l'avenir du paysage politique et de l'exercice politique.
C'est vrai qu'on a parlé, voilà, on parle de Trump, mais quand on voit les modes d'intervention d'Hollywood pendant la campagne en faveur de Hillary Clinton, les Madonna, les Jay-Z, les Beyoncé, c'est vrai qu'on peut aussi parler de démagogie.
Mais même Donald Trump, c'est dément. Enfin, je veux dire, entre ses cheveux blonds peroxydés, son TV show, c'est vraiment, on a l'impression d'une vaste plaisanterie. On a l'impression que c'est l'accomplissement total de la société du spectacle et qu'on n'aurait même jamais pu l'imaginer.
Et est-ce que vous diriez l'un et l'autre, François-Xavier Bellamy et Anastasia Colosimo, qu'il faut souhaiter que Donald Trump réussisse parce que c'est peut-être un dernier espoir, en tout cas, pour sauver, on va dire, le système de la démocratie représentative, pour montrer aux gens que, voilà, là, ils ont vraiment fait ce choix et que la politique peut encore répondre à quelque chose. Ou bien est-ce qu'il faut souhaiter qu'il échoue parce que les promesses qu'il a faites sont justement des promesses de démagogues?
Là, on se retrouve devant une situation extrêmement difficile parce que je suis entièrement d'accord avec Brice Couturier. La politique en elle-même est un trésor et un trésor fragile. Le fait que nos conflits se règlent par le voie d'une élection, que nos différences se règlent par le chemin des institutions, en soi, n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'immédiat. Le premier mode de règlement des conflits entre les êtres humains, c'est quand même la violence. Et par conséquent, si les gens ne croient plus du tout en la politique, et le jour où les gens ne croiront plus du tout à la politique, il y a fort à parier qu'on voit ressurgir la violence, non pas seulement celle qu'on reproche dans les mots, dans les paroles, aux partisans de Donald Trump ou aux partisans d'Hillary Clinton, mais la violence physique, la violence concrète. Et c'est la même chose en France. Peut-être nos responsables politiques devraient-ils, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, avoir une forme de gratitude à l'égard, par exemple, des grands partis des extrêmes, et notamment du Front National, parce qu'en représentant une alternative sur le terrain politique, ils sont peut-être le dernier exutoire qui empêche beaucoup de nos concitoyens d'en venir directement aux mains pour régler leurs problèmes et pour manifester leur colère.
Donc votre réponse, ça serait quoi? Plutôt plutôt oui, il faut souhaiter qu'il réussisse.
Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens parce que encore une fois, d'abord, je connais trop. On ne peut que souhaiter qu'il réussisse parce que ce serait évidemment s'il réussit la réussite de tout un pays. Je veux dire que même Barack Obama a souhaité sa réussite, donc ce serait absurde de souhaiter qu'un responsable politique échoue. Ce que je souhaite en profondeur, c'est que nos sociétés occidentales soient capables, maintenant dans la durée, de se reconstruire de façon beaucoup plus approfondie pour pouvoir continuer de faire vivre ce miracle qui s'appelle la démocratie. Et encore une fois, la démocratie n'est pas garantie par le fait qu'il y ait des élections. C'est une grande illusion de le croire. Il y a des élections en Corée du Nord. La démocratie est garantie par le fait qu'une éducation de qualité est proposée aux enfants, par le fait qu'il y a des journaux qui sont capables de faire vivre un authentique pluralisme, et par le fait que toutes ces conditions permettent l'exercice d'un débat rationnel. Et c'est ça qui n'est plus garanti aujourd'hui. Et c'est ça qui est très inquiétant, bien sûr.
Comment est-ce que vous répondez à mon étrange question, Anastasia Colosimo?
Oui, je crois. Évidemment, on ne peut pas souhaiter qu'il échoue. Et je suis tout à fait d'accord pour dire, comme Brice Couturier, que s'il échoue, là, ça serait très grave, parce qu'il n'y aura pas... Enfin, quelle est l'étape d'après ? Ça, c'est une véritable question.
Parce qu'on en est vraiment à se dire, finalement, on va souhaiter le succès de quelqu'un qui, par ailleurs, nous effraie.
Oui, c'est très... Enfin, on va souhaiter son succès. Moi, je pense que, par ailleurs, Donald Trump ne va pas être si délirant que ça. On l'a très bien vu quand il a pris la parole, au moment où il a appris qu'il était le nouveau président des États-Unis. On l'a très bien vu quand il a rencontré Obama. Je pense qu'il n'est pas si délirant que ça. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir un gap énorme entre la manière dont il s'est comporté pendant sa campagne et le président des États-Unis qui va être. On l'a déjà vu. On a déjà vu que c'était deux personnes assez différentes. Donc, il est tout à fait possible qu'il ne fasse pas de choses aussi délirantes. Il est aussi tout à fait possible qui donne symboliquement, en tout cas, si ce n'est réellement, et le symbolique en politique, ça compte quand même, les passions, ça compte quand même, même si évidemment on invoque toujours le rationnel raisonnable, qui donne aussi la voix et qui donne la voix à tout ce peuple qui se sent marginalisé et qui soit ce candidat-là qui redonne symboliquement au moins de la place à toute une partie de la population qui se sentait exclue.
On n'est pas encore tout à fait à la fin d'un cycle démocratique, Brice Couturier.
Écoutez, il y a quand même des signes qui se succèdent d'une série d'événements historiques qui sont succédés de manière inquiétante ces derniers temps. Ils ont des noms propres. C'est Vladimir Poutine, c'est Erdogan en Turquie, c'est le Brexit, c'est Xi Jinping aussi en Chine qui marque un coup d'arrêt à la démocratisation du pays.
Viktor Orban en Hongrie.
Viktor Orban, c'est Kaczynski en Pologne. Et puis là, maintenant, Donald Trump. Donc on a une série de phénomènes à l'intérieur des démocraties ou qui s'en approchent, qui sont extrêmement inquiétants et convergents et qui disent tous la même chose à mon avis, qui disent tous que les peuples veulent des protections, qui veulent de la sécurité, qui se sentent mis en insécurité par la mondialisation et par l'immigration de masse, qui se sentent menacés dans leurs habitudes, dans leur mode de vie par l'immigration et qui se sentent menacés dans leurs emplois par la mondialisation. Or les peuples demandent aujourd'hui aux élites une protection que les élites ne leur accordent pas, pour la bonne raison que les élites font partie de la mondialisation. Elles en bénéficient, elles en profitent. Donc il y a cette coupure, elle s'explique largement pour cette raison-là.
Sans trop déflorer le sujet qui sera possiblement notre sujet de vendredi prochain, mais comme vous n'y participerez pas, si vous Brice Couturier, vous y serez, bon, je peux vous demander une première réponse, en plus on changera peut-être d'idée d'ici là, mais est-ce que vous diriez que c'est le libéralisme aujourd'hui économique et politique qui est le grand perdant de cette tendance que vous évoquiez?
Mais bien sûr, parce que ce libéralisme économique et politique, mondialisation, appelons-la comme ça, bénéficie aux élites éduquées et bien formées, parce qu'elles bénéficient de nombreuses opportunités pour s'enrichir et ça se voit. Pendant ce temps-là, vous avez toute une partie de la population qui, elle, voit les emplois partir à l'étranger pour cause de délocalisation et qui voit des étrangers s'installer auprès de chez eux, qui ont des modes de vie et des coutumes qui ne leur ressemblent pas et qui ne leur conviennent pas.
Anastasia Colosimo.
Je trouve que c'est à la fois très triste et en même temps il y a une certaine saveur à voir justement ces élites mondialisées aussi
à laquelle
beaucoup...
nous appartenons tous,
oui,
on est d'accord tous les
et
quatre
aussi...
ce soir.
Hein.
Voilà, nous excluons peut-être pas trop vite non plus de ces gens dont voilà.
Non, mais beaucoup aussi chez les jeunes sociodémocrates qui pleurent le Brexit, qui pleurent l'élection de Donald Trump et qui hier disaient la démocratie c'est formidable, il faut que les gens participent, il faut qu'ils votent. Et en fait, quand ils votent pas comme ils veulent, tout d'un coup, ils sont complètement dépités. Ce qu'ils découvrent, c'est que le peuple, justement, peut-être n'est pas aussi facilement gouvernable et manipulable et qu'il a aussi peut-être des envies qui ne sont pas toujours l'envie de ses élites.
François-Xavier Bellamy, comme vous ne venez pas souvent nous rendre visite, je vous laisse le soin de conclure.
Malheureusement, je crois que cette élection est aussi le signe qu'il est plus manipulable qu'il n'en a l'air par des ressorts qui sont bien plus triviaux, en fait. Et je crois encore une fois quelque chose d'assez triste et d'assez préoccupant. La seule question qui compte vraiment, me semble-t-il, c'est de retrouver le sens de cette liberté. Vous parliez de libéralisme. Je crois que, paradoxalement, nous avons vécu dans un monde qui était relativement coercitif, y compris du point de vue intellectuel, et que c'est aussi une aspiration à la liberté de penser qui se manifeste à travers ces élections, mais d'une façon sans doute un peu déviée, un peu dévoyée, parce que cette liberté n'est pas nourrie, qu'elle n'est pas alimentée. Or, la liberté n'a rien d'immédiat, justement. Et c'est à cette immédiateté qu'il faut renoncer. Le grand malheur est que, en France en particulier, nos dernières réformes, par exemple sur l'éducation, la catastrophe éducative qui est en train de se construire, sont malheureusement au service des démagogues de demain. Et de ce point de vue-là, nous aurons commis sans doute une grande trahison contre la démocratie si nous ne changeons pas très vite de direction.
C'est pas bien de lancer un nouveau sujet de débat alors que le générique est en
cours. François-Xavier
Bellamy, je vais recevoir des mails après en me disant mais comment vous avez pu lui laisser dire ça sans apporter un peu de contradiction. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à la discussion. François-Xavier Bellamy, Anastasia Colosimo et Brice Couturier. On vous retrouve bientôt dans le Club des idées du Grain. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, la page du Grain Amour. Vous pouvez également postez vos commentaires sur notre fil Twitter. Je tiens d'ailleurs à remercier Kaina, qui est notre 9e abonné à notre compte Twitter. On promet un cadeau pour le 10 000e abonné. Tiens, voilà, ça c'est faire un petit peu de démagogie, mais non, c'est promis, on enverra un cadeau pour le 10 000e. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Fanny Richet, Céline Leclerc, Isolte Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Lundi, nous poserons la question suivante, y a-t-il une renationalisation du monde? Nous serons assez proches finalement de la discussion de ce soir.